Bon, je vous prie de m'excuser, là, c'est les diverses... Je m'en mêle dans mes casquettes, parce que la métaphore ne va pas, mais enfin... Et donc, nous accueillons Elisabeth Mathieu, que certains, beaucoup d'entre vous connaissent, qui est mon élève chéri, et qui est d'une certaine façon la plus proche de ma façon de travailler et de prendre les choses, qui a fait qui est l'auteur de nombreux travaux, de beaux travaux d'importants, qui était sa thèse sur Sainte-Marie-Madeleine dans la littérature française du Moyen-Âge, un très gros et beau livre qui était pour son habilitation sur la vie des pères, qui, comme certains le savent, est un ouvrage, une œuvre qui est particulièrement chère à mon cœur. Et nous partageons, Elisabeth Mathieu et moi, cette admiration pour les contes de la vie des pères. Elle l'a édité et traduit dans ma collection Lettres gothiques, Baudouin de Flandre, qui est un roman de la fin du Moyen-Âge vraiment surprenant, et dont je vous conseille vivement la lecture. Le comte de Flandre rencontre un roman à la fois historique et fantastique. Il rencontre une jeune fille dans la forêt, il l'épouse, mais c'est un diable qui est entré dans le corps d'une princesse orientale décédée. Enfin, vous voyez, si c'est agréable d'épouser, d'avoir une marinée... une femme pareille, enfin bon, d'ailleurs ça se termine très mal. Elisabeth Mathieu a non seulement une finesse et une pénétration remarquables, mais un talent pédagogique dont elle va nous faire profiter, et qui s'est manifesté là. Elle a fait aussi, bon, ça a l'air de rien, là. C'était à l'usage des classes, c'était des tout petits livres, à l'époque c'était des petits livres à 10 francs, c'était du temps des francs, là au livre de poche, un petit livre pour les collèges, sur, à partir du roman de Renard, voilà, première branche du roman de Renard. Et à la fois sa traduction, la façon dont elle l'a présenté, le ton juste qu'elle a trouvé pour en parler, c'était une merveille. Avec cette petite collection, dommage qu'elle n'existe plus parce qu'on avait bien réussi. Claude Galderisi, qui était là, avait fait un très beau Charles d'Orléans et Elisabeth Mathieu, un très beau roman de Renard. Bref, elle fait tout très bien. Et alors, bon, la seule chose, c'est que, elle va nous parler de Rudebeuf. Alors, je suppose qu'elle va nous montrer que j'ai tort sur Rudebeuf, mais enfin, je la laisse faire. Et effectivement, moi, je ne peux pas trop parler de Rudebeuf parce que j'ai déjà tellement parlé de Rudebeuf. Et pourtant, pour le sujet que j'ai cette année, c'est le plus bel auteur. Donc, je me brime constamment et je suis très content qu'elle me débrime. Voilà, on va l'écouter.
Merci beaucoup. Je remercie Michel Zinc de me faire à nouveau l'honneur de venir parler en ces murs d'un poète Rudebeuf dont je ne lui apprendrai rien, puisqu'il en est le grand éditeur, traducteur et commentateur contemporain. Mon sujet, Pauvreté de Rudebeuf, peut par ailleurs paraître étonnamment galvaudé. J'espère que le S de son pluriel montrera que le sujet est moins évident qu'il ne le paraît. Quel rapport en outre avec l'intitulé de ce séminaire, le nom du poète ? Rudebeuf est, de fait, le poète médiéval qui a le plus joué avec son nom, ou plutôt avec son surnom, à une époque où l'anonymat littéraire demeure prégnant. Il le fait dans ses pièces les plus inattendues, les œuvres religieuses, celles-là même dans lesquelles le nom du poète devrait s'effacer, au profit de son seul sujet. La vie de Sainte-Marie l'Égyptienne, composée sans doute en 1262, se clôt ainsi. Alors je la cite dans la traduction de Michel Zinc. « Et moi qui ai nom Rudebeuf, mot composé de rude et de bœuf, que cette très sainte dame prie pour moi celui dont elle est l'amie, qu'il n'oublie pas Rudebeuf. » clôture, somme toute banale, d'un poète récemment converti qui souligne, chaque fois qu'il le peut, sa nouvelle dévotion. Que Dieu n'oublie pas Rudebeuf, mais que n'oublie pas non plus son nom, la famille royale, ou tous les puissants parisiens, un temps détournés de lui. La clôture du miracle du sacristain me semble plus éclairante pour toute l'œuvre de Rudebeuf, dont elle fournit, pour ainsi dire, une clé de lecture. Le tourment que ces gens avaient eu, il s'agit des héros du miracle du sacristain, le tourment que ces gens avaient eu a été connu partout. Monseigneur Benoît l'a pris, que Dieu le bénisse. Il le raconta à Rudebeuf, et Rudebeuf a fait un conte de la chose et l'a mise en rime. Il dit maintenant que s'il y a dans la rime quelque chose à reprendre, vous devez prendre garde à son nom. Il est rude et œuvre avec rudesse. L'homme rude fait une œuvre rude. S'il est rude, le bœuf est rude aussi. Il est rude et a nom Rudebeuf. Rudebeuf œuvre rudement. Souvent, dans sa rudesse, il ment. Dans le texte médiéval, Rudebeuf dit « regardez à son nom », c'est-à-dire « prenez garde à son nom ». Regarder est une forme intensive du verbe « garder ». Simple topos d'humilité de l'auteur, dira-t-on. Son contemporain, Gauthier de Coincy, appelle aussi, dans le prologue de sa vie de Sainte-Christine, les seigneurs qui maîtrisent les équivocations et l'éonymité, c'est-à-dire les rimes équivoques et léonines, à ne pas mépriser son livre, à lui qui ne dispose pas de semblables talents de versification. Mais le même Gauthier de Coincy emploie peu avant l'adjectif « rude » pour justifier, à contrario, le projet même de son hagiographie. Il faut, dit-il, lire et étudier pour développer son intelligence, et lire surtout les livres auxquels nos ancêtres ont consacré beaucoup d'études et de peines. C'est la citation que vous avez ici en ancien français. « Kermut fuisson rudes, sine fussant li livre, ou mistrant nostre ancestre, grande étude et grande peine. » Nous serions bien rudes s'il n'existait pas les livres où nos ancêtres ont mis grande étude et grande peine. Rudebeuf se présente donc comme le poète rude, c'est-à-dire inculte, grossier. Mais il suffit de relire les vers consacrés à cette rudesse pour y déceler une anominatio, un polyptote sur l'adjectif rude, dont la virtuosité contredit cette rudesse au moment même où elle s'énonce. Il se contente, dit-il, de mettre en rime un miracle que tout le monde connaît, à la demande d'un certain Benoît. Sujet banal et de commande, donc. Or, s'il est bien une œuvre extrêmement originale au XIIIe siècle, dans sa thématique même, c'est celle de Rudebeuf. Le nom ainsi affiché proclame haut et fort une inculture, une rudesse, toute bovine, mais cette provocation même n'a d'autre effet que d'attirer paradoxalement l'attention sur l'originalité, voire la finesse de Rudebeuf. Quand Gauthier de Coincy nous dit « Nous serions bien rudes sans les livres des ancêtres que j'adapte », il sous-entend que son œuvre est dépourvue de rudesse et qu'elle livre à ses auditeurs une culture essentielle. En disant « Je suis un Rudebeuf », Rudebeuf appelle presque irrésistiblement à un retour réflexif sur son œuvre. Ne nous dit-il pas lui-même qu'il ment ? Ce mensonge est moins celui d'une prétendue rudesse stylistique qui déflorerait le thème de l'œuvre que celui de toute son écriture poétique. Pour autant, si avec Gauthier de Coincy nous définissons la rudesse comme l'ignorance des œuvres des ancêtres, force est de constater que Rudebeuf témoigne d'une certaine rudesse. Rudebeuf n'est pas, tout au moins dans la première partie de sa vie, un poète de la tradition. un poète des auctoritates, mais un poète de l'actualité, un poète de son temps. Quantité de ses œuvres sont en lien direct avec l'actualité. Celle de la querelle universitaire contre les ordres mendiants, celle de telle ou telle décision de Louis IX, celle du décès de tel ou tel grand du royaume. Lorsqu'elles ne le sont pas, elles sont en lien avec l'actualité biographique, ou supposée telle, d'un moi qui se perçoit toujours au présent. Les célèbres Grièches s'écrivent au présent. Quand Gautier de Coincy est ainsi un poète de la tradition, et peut-être de l'éternité, Rudebeuf s'affiche comme représentant du XIIIe siècle et de lui seul. Avec le Beuf, il exhibe également une transgression délibérée des codes sociaux et poétiques. Le bœuf est l'animal des vilains, un animal de fabliaux. Dans le Paix aux vilains, œuvre scatologique, le vilain a trop mangé de bon bœuf aux os, de bon bœuf à l'ail. Que l'on n'attende pas de Rudebeuf le raffinement de la poésie amoureuse, celui du grand chant courtois. Par son nom même, Rudebeuf revendique un droit à la transgression, par le comique, par la polémique aussi. Ironise-t-il sur les innombrables ordres monastiques fondés par Louis IX, sur ses filles, les filles Dieu, prostituées repenties, il le fait grâce au bouclier de ce nom qui lui autorise des audaces de vilain, des audaces d'animal. Ce nom qui est un bouclier est aussi un masque, celui de l'écriture poétique, comme affranchi de son auteur. Celui qui parle est toujours le poète, ce poète surnommé Rudebeuf, et non le citoyen de Paris dont nous ignorons tout. Cette œuvre indissociable de son auteur, qui est omniprésent par ses commentaires, ses intrusions, est paradoxalement une des œuvres qui manifeste le plus au Moyen-Âge d'autonomie du littéraire, d'autonomie de l'œuvre par rapport à son créateur. Ce nom de Rudebeuf est ainsi un pauvre nom. Nom rude, nom de paysan, de vilain, celui du pauvre Rudebeuf que chantera Léo Ferré. Il nous ramène à la thématique de la pauvreté, centrale dans toute l'œuvre. Je vais appréhender cette pauvreté par trois angles d'approche. La pauvreté polémique, la pauvreté panégyrique et enfin la pauvreté parodique. La pauvreté est peut-être la grande affaire du XIIIe siècle, paradoxalement siècle de l'essor économique et d'une prospérité rarement connue dans le haut Moyen-Âge. La richesse relative du temps fait comme ressurgir l'exigence de dénuement radical des premiers pères et celle du plus emblématique des ermites, saint Antoine. Il n'est pas anodin que la vie des pères, librement adaptée des Vitae Patrum, s'écrive en ces années 1230-1250, années de jeunesse de notre poète. Les ordres mendiants prolifèrent dans toute l'Europe et particulièrement à Paris, où Louis IX les encourage et les dote de bâtiments. Je renvoie à la vie de Saint-Louis de Joinville et aux lignes qu'il consacre à l'extrême souci des pauvres de ce roi qui, je cite, « dès le temps de son enfance, fut le roué piteuse des pauvres et des souffreteux ». L'accès à la sainteté passe dès lors par le choix délibéré de la pauvreté, vœux monastiques et vœux, bien sûr, des ordres mendiants qui se définissent par elles. Il est notable que le thème intéresse Rudebeuf avant même sa participation à la querelle universitaire et sa vive hostilité aux ordres mendiants. Dans « Les plaies du monde », œuvre de jeunesse d'un Rudebeuf probablement étudiant à Paris, sont passées en revue trois grandes catégories sociales, les laïcs, les clercs et les chevaliers. Or, toutes trois arborent la même plaie, le même vice, celui de la cupidité. L'argent brise l'unité familiale, le pauvre n'a plus de famille, plus de soutien. Au contraire, il est de coutume de plumer le faible. vers 28, qu'au-dessous est chacun le plume. Celui qui est en dessous, celui qui a un statut inférieur, chacun le plume. La condamnation de Rudebeuf passe par le prisme évangélique de devoir vêtir l'homme nu. Il nous dit au vers 26, désormais, nul ne revêt plus ceux qui sont nus. Il n'existe plus chez les laïcs de Saint-Martin. Plus rien ne sépare en fait les deux ordres, des laïcs et du clergé, puisque tous deux sont rongés par la même passion de posséder. Le meilleur clerc est le plus riche. Plus est bon clerc qui plus est riche. Plus rien ne sépare non plus les clercs et les chevaliers, puisque, comme dans la société féodale, la société des clercs repose sur l'hommage vassalique, mais un hommage vassalique à ce suzerain qu'est l'argent. Car il a, donc le clerc, il s'agit du clerc en bas de l'écran, car il a fait à son avouer hommage, ce vos fait savoir. Toute frontière entre les castes, entre les ordres, a disparu au profit d'une hiérarchie nouvelle, d'une dualité fondatrice, celle qui oppose riches et pauvres. Dans l'état du monde, poème presque contemporain, Rudebeuf déplore la disparition d'un monde disparu, celui de la charité d'autrefois. Et il cible pour la première fois des coupables plus choquants que les autres, les religieux. Religieuse, premièrement, de Hussent vivre saintement se crouer, selon que m'entendion. Qui tots sont cers à convoitise. Mais tous sont les cers de la convoitise. Ces moines, blancs ou noirs, cisterciens ou bénédictins, sont tous devenus les esclaves, les cers, d'une convoitise allégorisée et toute puissante. Une nouvelle fois, les frontières s'abolissent, ici entre deux ordres aussi différents que les cisterciens et les bénédictins. Ces ordres deviennent indifférenciés dans un même esclavage. Leur fonction même n'apparaît plus, puisqu'ils ne prêchent plus, nous dit Rudebeuf, ni Jésus-Christ, ni sa mère, ni Saint-Pierre, ni Saint-Paul. Les ordres mendiants, nés de cette aspiration à un retour à la pauvreté, à la prédication, devraient donc combler les attentes du jeune Rudebeuf. C'est le cas dans un de ses tout premiers poèmes, le Dit des Cordeliers, lié à sa ville d'origine, Troyes. Écoutez donc d'abord d'où ces gens sont venus. Des fils de rois, de comtes, se sont faits frères mineurs. Dans le monde, ils étaient grands. À présent, si menus qu'ils sont ceints de la corde et vont tous les pieds nus. Il est clair que notre Seigneur aima leur ordre. Quand saint François mourut, il invoqua Jésus. En cinq endroits, je crois, Jésus marqua son corps, ce qui nous montre que son âme est avec lui. À ce moment de sa vie et de son œuvre, les franciscains incarnent, par leur pauvreté volontaire, ce bouleversement hiérarchique cher à Rudebeuf et que l'on retrouvera bien plus tard dans la vie de Sainte-Élisabeth. Des membres de familles royales ou comtales renoncent à tout pour suivre, pieds nus, le modèle de saint François. Alors même que les clercs s'asservissent au maître argent, les seigneurs véritables, ceux qui avaient le pouvoir de faire agenouiller leurs vassaux, y renoncent. Mais la querelle universitaire et le soutien appuyé du roi aux ordres mendiants vont faire basculer le poète dans une haine viscérale de ces ordres renégats. Les dominicains, particulièrement honnis, illustre dans le Dit des Jacobins une ascension sociale inverse au renoncement hiérarchique des premiers cordeliers. Voici ce Dit des Jacobins. Je le cite toujours dans la traduction de Michel Zinc. D'abord, ils n'ont demandé qu'un petit coin tranquille, avec un peu de foin, ou de chaume, ou de paille. Il prêchait le nom de Dieu aux pauvres, à la piétaille. Désormais, ils n'ont que faire d'hommes qui à pied aillent. Ils ont reçu tant de deniers des clercs et des laïcs, tant de charges d'exécuteurs testamentaires, d'aumônes et de lait, que de leur humble maison, ils ont fait de grands palais. On pourrait y charger au galop, lance en arrêt. C'est là encore l'argent, suzerain des clercs, cisterciens et bénédictins, qui est à l'origine de la dénaturation des mendiants. L'afflux des aumônes, des laits, a fait de leur lit de paille un somptueux palais. Méprisant la piétaille, le dominicain est devenu aristocrate, chevalier. Ainsi, le vœu de pauvreté, dénaturé, contribue-t-il à la même perturbation des castes sociales que l'allégorie de convoitise. L'humilité choisie devient orgueil. Pour la mort Jésus-Christ, laissèrent la chemise et prirent pauvreté qu'à l'ordre estoué promise. Mais ils ont pauvreté glosée en autre guise, humilité sermone qu'ils ont en terre mise. La vertu de pauvreté se mue ainsi en vice de l'orgueil. L'exaltation toute verbale de l'humilité aboutit à la mort et à l'ensevelissement de cette même humilité, preuve de la force du langage qui peut détruire ce qu'il semble sublimer. Le sermon devient fallacieux, la réalité même est trompeuse, à l'instar de ces mendiants que Rudebeuf présente comme des renards ceints d'une corde et d'un froc gris, dans la Discorde des Jacobins et de l'Université. La poésie polémique de Rudebeuf fait de l'argent un piège infernal qui rend tout choix de la pauvreté, tout retour à la vie ascétique des pères illusoire. Le vœu de pauvreté, censé régénérer l'Église du XIIIe siècle, est vu par le poète comme la cause directe d'un affaiblissement de l'Église et du dogme déploré dans de multiples œuvres. Pire, il est le subterfuge par lequel s'introduit l'Antéchrist, prophétisé depuis longtemps. Vous voyez là le signe évident du prochain avènement de l'Antéchrist, lit-on en clôture du poème qui s'intitule « Sur l'hypocrisie ». Toutes ces perturbations de l'équilibre social, toutes ces manipulations du langage clérical illustrent à merveille les théories de Guillaume de Saint-Amour dans son Tractatus Brevis de Periculis. Car qu'on ne s'y trompe pas, la pauvreté dans l'œuvre de Rudebeuf n'a rien d'une pauvreté sociale. Elle est en cela bien différente de la pauvreté du poète François Villon, souvent rapproché de lui. Jean-Pierre Bordier a bien noté ce, je cite, « vague romantisme populaire qui a fait de lui le poète des pauvres », raison entre autres de sa célébrité au XXe siècle, mais il qualifie ce vague romantisme de, je cite à nouveau, « féconde erreur qui nous a aidés à l'aimer ». Se décèle même dans l'œuvre de Rudebeuf un certain mépris du vrai pauvre. L'état du monde évoque ces gens menus qui veulent être bien payés et travailler peu. Les fabliaux, mais c'est le genre même qu'il exige, donnent une image détestable et ridicule des vilains. Quant au dit des ribauds de grève, s'il est réaliste dans sa peinture, il n'en est pas pour autant particulièrement empathique. Dans les ordres de Paris, Rudebeuf affiche du mépris pour les frères Sachet, grossiers paysans qui ne survivent, selon lui, que grâce au soutien de Louis IX. Si le roi venait à mourir, je cite, « qu'il retourne d'où ils viennent, chacun à sa charrue ». Le surnom de Rudebeuf ne doit pas laisser imaginer une quelconque sympathie pour le monde agricole ou ses vilains chez un poète fondamentalement urbain, cultivé et proche des grands du royaume. Ce nom, on l'a vu, est un masque. La pauvreté n'intéresse en fait Rudebeuf que par le prisme religieux. Rappelons-nous que dès les plaies du monde, il déplorait la disparition à son époque du devoir évangélique de vêtir le nu, celle de successeur de Saint-Martin. La pauvreté l'intéresse en tant que polémiste parce que, avec les mendiants, elle perturbe profondément l'organisation ecclésiale de son temps et menace l'Église de l'intérieur. Après sa célèbre « conversion » entre guillemets, de 1262, dans un effort désespéré pour reconquérir les faveurs de Saint-Louis et de sa cour, celle des mécènes, Rudebeuf va convertir son œuvre précisément vers le thème non plus polémique, mais religieux de la pauvreté. Cette dernière constitue le socle idéologique de toutes ses œuvres d'alors. La vie de Sainte Marie l'Égyptienne, la vie de Sainte Élisabelle et le miracle de Théophile, qui a pactisé avec le diable parce qu'il ne supportait pas sa récente pauvreté. Pour se rapprocher de ce roi dont Joinville nous dit qu'il, je cite, « Donoué chasse qu'un jour si grande c'est si large aumône aux pauvres de religion, aux pauvres hôpitaux, aux pauvres malades » et je coupe car la citation, l'énumération est très très longue, « que à peine pourrait l'en raconter le nombre, à peine pourrait-on raconter le nombre des fondations pieuses de Saint-Louis ». Rudebeuf renoue avec le grand courant de la littérature hagiographique, celle des ancêtres, qu'il se mettra à adapter du latin, celle de Gauthier de Coincy. Avec Marie l'Égyptienne, il retrouve le dénuement extrême et surnaturel des premiers temps, l'ascétisme spectaculaire d'un saint Antoine ou d'une sainte Thaïs. La pénitence au désert de la prostituée repentie se place sous le signe d'un appauvrissement hyperbolique, d'une lente déshumanisation. Elle s'y serait rendue dépourvue de tout si un pèlerin ne lui avait donné 3 mailles, à savoir la plus petite unité monétaire en circulation, pour, je cite, « l'amour du roi de gloire ». Avec ses piécettes, elle achète 3 petits pains qui la nourriront exclusivement pendant 30 ans. Le détail s'interprète bien sûr symboliquement. Le triple pain est le corps du Christ trinitaire, offert ici par la charité de son prochain. C'est cette même charité, celle des hommes, appelant la caritas divine, qui permet à Marie de subsister dans le dénuement le plus absolu. La pauvreté, qui signifiait jadis l'hypocrisie morale de mendiants en quête de profit, devient le vecteur de la pénitence et donc du salut. Plus elle s'accroît et plus Marie l'Égyptienne approche de la sainteté. Elle, dont le premier péché était de s'enivrer, nous a dit Rudebeuf, boit maintenant l'eau d'un fleuve, mais pas n'importe quel fleuve, le Jourdain, et elle s'y lave la tête. Ce baptême, cette purification achevée, elle prend une barque et traverse le fleuve pour se rendre dans la forêt. Le Jourdain est la frontière qui, traversée, la fait passer de la ville et ses vices à la solitude pénitentielle de la forêt, de la richesse à la pauvreté aussi. Au lieu de, je cite les vers 423-424 de la vie de Sainte Marie l'Égyptienne, au lieu d'un beau palais de marbre, elle s'est couchée sous un arbre. Du marbre à l'arbre, on passe en rime, de la civilisation à la nature, de l'humain au végétal. La pénitence ne passe plus par l'abandon d'un vêtement luxueux à une bure grossière, voire un sac chez les sachets, elle se fait par l'abandon même de toute robe. Elle rompt et déchire sa robe, chaque branche en emporte une pièce, car elle l'a eu si longtemps sur le dos, hiver comme été, que la pluie, la chaleur et le vent l'ont toute ruinée par devant. Il n'y reste pas une couture intacte, ni par devant, ni par derrière. La robe, artefact humain symbolisé par la couture, ultime souvenir de la socialisation de la pécheresse, disparaît, progressivement détruite par les aléas météorologiques, la pluie, la chaleur et le vent. Cet imaginaire météorologique de l'appauvrissement est récurrent dans la seconde partie de l'œuvre de Rudebeuf. Nous le retrouverons. Être victime des saisons et de leur climat symbolise en effet chez le poète l'absolue soumission aux éléments. C'est le sort du vilain qui travaille au champ, ou ici, la mortification absolue et délibérée de la chair. La pauvreté fait progressivement disparaître toute trace du passé nobiliaire. Le poète signale que plus un signe n'apparaît du passé de demoiselle de Marie, ainsi que toute trace de féminité. Je cite toujours dans la traduction de Michel Zinc. Elle avait la peau noire comme le pied d'un cygne. Sa poitrine devint moussue à force d'être battue par la pluie. Ses bras, ses longs doigts, ses mains étaient plus noirs à tout le moins que de la poix ou de l'encre. Elle se taillait les ongles avec ses dents. On aurait dit qu'elle n'avait pas de ventre. Ce portrait inverse tous les attendus du portrait de la dame courtoise au teint clair. J'y pensais tout à l'heure en voyant l'image de Colin Muset, le poème de Colin Muset. Vous avez ici l'inversion complète de ce qu'on a vu avec la strophe de Colin Muset. Les comparants ne relèvent plus ici de l'humain, mais soit de l'animal, le pied de cygne, les ongles rongés avec les dents, soit du végétal ou minéral, la mousse, la poix, l'encre. La perte du ventre est l'ultime perte symbolique de cette féminité. Lorsque la pénitente meurt, après avoir communié des mains du moine Zosime, qui lui a donné un pauvre vêtement bien partiel, Rudebeuf, hagiographe, la décrit ainsi. Covert note qu'une partie de lit, d'où drap, que Zosimas lit donna, qui fut pauvre strat. Pou ôte le corse à couveté, Dieu en mammouth telle pauvreté. Zosime, qui donne une partie de vêtements à la pénitente, rappelle à l'auditoire occidental la figure de charité de Saint-Martin, celui-là même dont les plaies du monde déploraient la disparition. La nudité devient le renoncement absolu. Et, dit Rudebeuf, Dieu apprécie beaucoup une telle pauvreté. On remarque ici un continuum entre le jeune Rudebeuf, affirmant que Dieu aime l'ordre de Saint-François, et le Rudebeuf plus âgé et converti. Il existe chez le poète la certitude que la pauvreté est sainte et qu'elle plaît à Dieu, d'où peut-être la fougue haineuse de son œuvre polémique contre les mendiants hypocrites. Les parallèles sont multiples entre les textes que nous venons d'envisager et la vie de Sainte Élisabelle, œuvre de commande passée en 1264 par Érard de Lésine pour la reine Isabelle de Navarre, fille de Saint-Louis. Isabelle est censée se reconnaître au miroir de sa quasi-homonyme Élisabeth, fille du roi de Hongrie. Élisabelle, forme syncrétique des deux prénoms, est sans doute le meilleur exemple de ces membres de dynastie royale voués à la pauvreté franciscaine que célébrait Rudebeuf dès le tout début de sa carrière. Si Marie l'Égyptienne anéantit sa chair par pénitence pour trouver Dieu dans l'absolue pauvreté, Élisabeth de Hongrie joint à la même abnégation un souci concret du service des pauvres. Elle réconcilie Rudebeuf avec les mendiants au double sens du terme. Il voit en elle une vraie franciscaine, représentante d'un ordre estimé de lui avant les déceptions de la querelle universitaire, et en choisissant de lui consacrer une hagiographie, il se réconcilie avec l'ordre. Le parallèle entre mendicité vilipendée et mendicité exaltée n'est pas que thématique, il est aussi stylistique, comme on le voit dans cette double colonne, donc avec un extrait à gauche du poème sur l'hypocrisie, qui dit « Tel dont on croit qu'il se frotte au cilice, a sous sa ceinture autre chose, à mon avis. Tout ce qui brille n'est pas d'or. » J'ai donné le vers original « n'est pas tot ors, qu'encre lui. » Donc là, le proverbe était utilisé pour l'hypocrisie des mendiants. On retrouve ce proverbe dans la vie de Sainte Élisabeth. Elle portait la haire à même la peau sous sa chemise, tandis qu'au dehors, elle était richement vêtue. C'est alors qu'on aurait pu dire, je crois, « Tout ce qui brille n'est pas d'or ». La même vérité proverbiale est assignée à deux réalités antinomiques. Fausseté des apparences de pauvreté dorée des mendiants, fausseté des dorures d'Élisabeth qui porte, elle, un cilice véritable mais caché. La sainte paye les dettes des débiteurs insolvables. Elle ne sent pas, quand elle s'occupe d'eux, la puanteur du vêtement des pauvres qui incommode ses dames de compagnie. Vend ses joyaux pour en donner le prix aux démunis. Tous les jeudis saints, elle lave les pieds des pauvres et les baise après les avoir essuyés, tel le Christ. Elle fait de même avec des lépreux auxquels elle baise les mains, tel Saint Louis dans son célèbre baiser aux lépreux. Chassée de son château à la mort de son époux, Élisabeth s'installe dans une maison aux murs crevés et sans toit. Réapparaît ici l'imaginaire météorologique de la pauvreté, déjà constaté dans la vie de Sainte Marie l'Égyptienne, et on le verra dans la grillage d'hiver, ainsi que la seule protection d'un arbre. Il aurait beaucoup plu dedans si les feuilles des arbres n'avaient protégé de la pluie. S'il pleut, elle se mouille. S'il fait chaud, elle s'essuie. La fille de roi quitte le palais de marbre pour l'exposition aux vicissitudes du climat. Lorsqu'arrive auprès d'elle le comte Pavien, chargé par le roi son père de la ramener à la cour, il la trouve filant la laine et vêtue d'un vieux manteau rapiécé. Elle refusera d'obtempérer à l'ordre royal et paternel. Cette charité active, celle d'une vraie mendiante, ressemble à s'y méprendre à celle de Saint-Louis, le père de la destinataire, qui servait lui-même à table les pauvres. Sous la figure royale d'Élisabeth, simultanément dégradée et sublimée par la pauvreté volontaire, sa fille Isabelle est censée retrouver le portrait tout aussi sublimement paradoxal de son père. Ruteboeuf repenti, Ruteboeuf religieux, est aussi un Ruteboeuf courtisan. Ce qui nous amène au dernier aspect de la pauvreté dans l'œuvre de Ruteboeuf, une pauvreté autobiographique, dont nous verrons qu'elle est parfois parodique. Ruteboeuf n'évoque pas seulement en effet la pauvreté fallacieuse des mendiants, la pauvreté glorieuse des saints, mais il évoque souvent, avec humour ou pathos, une pauvreté qui est la sienne. L'une de ses toutes dernières œuvres s'intitule d'ailleurs « La pauvreté Ruteboeuf ». Au nouveau roi, Philippe le Hardi, dont il craint le peu de soutien, il dresse de lui un autoportrait de pauvre endetté toussant de froid, bâillant de faim, aux côtes frottant un lit de paille, qui n'est pas sans rappeler celui de Sainte Élisabeth, justement. On évoquait son lit de paille dans la géographie qui lui est consacrée. Le propos, autobiographique ou non, relève d'un emploi fréquent du pathos pour attirer la charité des grands. Mais c'est à une œuvre antérieure que j'aimerais revenir, la célèbre Grièche d'hiver, qui a assuré à Ruteboeuf sa postérité jusqu'à l'époque contemporaine. Il est coutume d'y voir la déréliction autobiographique d'un Ruteboeuf joueur qui s'est ruiné au dé. La date de sa composition, qu'elle soit de 1256 ou bien 1260, antérieure en tout cas à sa conversion, autorise peut-être une nouvelle approche. Son incipit prend d'emblée le contre-pied du célèbre topos de la Reverdie dans les chansons et poèmes médiévaux. Ce topos qui veut que le printemps équivale à l'amour. Et va mettre à l'honneur la saison hivernale en faisant le temps symbolique de la pauvreté. L'hiver tue toute vie, jette à terre toutes les feuilles sans exception. Son caractère oppressant devient métaphorique de l'oppression de la pauvreté, qui, elle aussi, atterre, c'est-à-dire terrasse, et mène la guerre au poète. On remarque des vers 4 et 5 la rime entre atterre et guerre. Face à la pauvreté, inexorable, destructrice, Rudebeuf se présente aussi démunie que la feuille face à l'hiver. Le vers 7 présente un jeu de mots. Dont mout me sont changé l'hiver. Expression usuelle qui signifie simplement « ma situation a bien changé » et qui peut ici être prise au sens littéral. Ma poésie est en train de changer. Ma poésie est bien en train de changer. Il est frappant de comparer ce passage avec le premier vers du dit sur l'exil de Maître Guillaume de Saint-Amour, dont l'incipit est « Oyez, prélat et prince héroé ». Non seulement le public a bien changé, mais il semble ne plus y avoir de public, aucun public. Le dit ne se dit à personne en particulier, ou plutôt il aspire à se dire à tous, et c'est ce qui va le rendre universel. Il s'agit d'un dit divers, puisqu'il prend le contre-pied des topoi poétiques, le printemps, la richesse, l'amour, etc., mais aussi divers au sens de cruel, sans oublier l'homonymie avec divers, D'HIVER. Le poète n'est plus celui dont l'inspiration vient du jaillissement de la vie et de l'amour, comme au temps de la courtoisie. Il est le porte-voix d'un cri, une complainte incarnée. L'humilité poétique du vers 10 semble topique en un premier temps. Pauvre sens et pauvre mémoire, ma Dieu se donner l'héroïs de gloire. Pauvre intelligence, pauvre mémoire, en comparaison avec la toute-puissance du verbe divin. Mais ce qui nous semble topique dans un premier temps affirme aussitôt son originalité. Dieu a également donné au poète une pauvre rente, c'est-à-dire peu d'argent, un maigre gain. Appel à la compassion ? Pas uniquement si l'on songe qu'au XIIIe siècle, le pauvre, est l'élu de Dieu, le saint par excellence, le principal souci des papes et des rois. Il y a un jeu sur le poète pauvre élu, où l'on retrouve cette mise à l'écart du poète par rapport aux hommes, pour rappeler un peu le Odi profanum vulgus, cet archéo de Horace, non plus volontaire, mais subi comme un châtiment divin. L'originalité des premiers vers se mue en stupéfaction avec un vers 13 inattendu et fouet au cul quand bise vente. Même si le mot est moins vulgaire en ancien français qu'aujourd'hui, il fait entrer en poésie le bas corporel, topos des fabliaux, comiques ou érotiques, mais absent de la tradition poétique. Il met surtout en scène le moi dans ce qu'il a de plus pauvre et de plus trivial. Le poète pauvre ne peut plus composer des vers de qualité. Il n'a plus de ferveur poétique, au sens de chaleur poétique. Le froid le limite à ses sensations corporelles les plus triviales. L'élaboration stylistique des vers 13 à 17 est remarquable. Vous voyez la triple répétition de vent, plus vente auparavant, trop souvent. Vente, l'ivance me vient, l'ivance mes vente, et trop souvent, plusieurs fois sente le vente, bien le mot grièche en couvente. Donc, répétition de vente, donc homéothéleute, c'est-à-dire des effets de rime, mais pas à la rime, des effets de rime à l'intérieur des vers. Et bien sûr, cette allitération en V qui est très perceptible. Donc, tout en annonçant que ces vers vont être divers, Rudebeuf fait montre de sa compétence en versification, de sa virtuosité poétique, mais au profit de l'humour et du trivial. Ce n'est plus le doux zéphyr habituel en poésie, mais la bise qui fait froid au cul. Au vers 17 apparaît la grièche qui va donner son nom au dit. Donc c'est un jeu de dés d'origine grecque, mais c'est aussi un terme qui signifie la malchance, la guigne. Et cette grièche remplace les précédents commanditaires et mécènes de Rudebeuf, et elle paye bien, elle paye au centuple. On voit au vers 23, que je n'ai pas recopié, je crois, si. Au vers 23, que la porte de la Grièche, à l'inverse de celle du roi ou des grands protecteurs des poètes, est-elle toujours ouverte. Le comique affleure toujours dans ses poèmes de la misère, tout comme la polémique ici d'ailleurs. Une fois encore, il ne faut pas trop compartimenter l'œuvre de Rudebeuf. La Grièche d'hiver montre la première apparition de l'image déjà relevée dans la vie de Sainte Élisabeth. Au vers 1182, hein, par pluie me hèle, par chaud essuie. Mouillé par la pluie, le poète victime de la Grièche s'essuie lorsqu'il fait chaud. Image là encore extrêmement concrète et triviale, impensable dans le registre courtois. Le poète sans abri devient le jouet des éléments, comme la feuille d'hiver. L'hypothermie le rend insomniaque. Rudebeuf se peint en fait sous les traits d'un vilain, d'un paysan victime des intempéries, d'un homme de la nature, lui qui a fréquenté les milieux de pouvoir parisiens dont il se retrouve exclu. Affleure là encore un aspect polémique, une provocation. Le vilain étant par définition celui dont on ne parle jamais, celui dont la littérature ne traite qu'en passant, pour s'en moquer ou le railler. La végétalisation, entre guillemets, la naturalisation du poète va d'ailleurs s'intensifier. Il est piqué par les mouches l'été, comme le bétail, et couvert par la neige, ce qu'il appelle les mouches blanches, l'hiver. Il est comme l'osier franche, l'osier sauvage, ou l'oiseau sur la branche. Tantôt végétal, tantôt animal, il a perdu son humanité. Son destin n'est plus qu'instabilité, précarité. L'osier est le jouet des vents et plis. L'oiseau ne peut rester longtemps sur la branche, toujours prête à s'envoler. Donc seul lui reste d'humain, au vers 37, ses pleurs et ses gémissements. L'humanité se réduit à la seule complainte, à la seule souffrance. La comparaison végétale avec l'ante, arbre fruitier qui perd toutes ses feuilles aux premières gelées, file et clôt la métaphore végétale ouverte à l'incipit avec l'arbre qui perd ses fleurs l'hiver. Tel est le destin, tout va s'avouer, écrit-il, et Rudebeuf n'en éprouve aucune amertume, ni venin ni fiel, dit-il. Il n'est donc plus le poète venimeux, le poète plein de fiel vis-à-vis de la monarchie, de la papauté, des ordres mendiants. Là encore, ses vers sont divers, au sens de différents. Il a changé, ils ont changé. Rudebeuf n'a plus rien, et seul demeure son talent poétique, puisqu'il jouera encore avec le polyptote, une nominatio du mot « voix », V-O-I-E, des vers 42 à 47. Plus qu'autobiographique, la Grièche d'hiver apparaît donc comme une pirouette aussi humoristique que provocante face à un roi Louis IX accusé de favoriser l'ennemi mendiant. Vous aimez les mendiants, mon souverain ? Eh bien, en voilà un dans une pénurie qui n'a rien à envier aux plus grands ascètes. Vous avez voulu me faire expier mon œuvre polémique ? Vous avez réussi l'exploit de faire de moi un poète mendiant plus véritablement mendiant que les mendiants eux-mêmes. Du point de vue stylistique, Rudebeuf inaugure dans la Grièche d'hiver ce que j'ai appelé plutôt l'imaginaire météorologique de la pauvreté. Le pauvre se végétalise, se minéralise. Sa complainte est le dernier signe de son humanité. Dans les œuvres hagiographiques ultérieures, la complainte disparaît totalement. Comme le Rudebeuf de la Grièche, Sainte-Marie l'Égyptienne et Sainte-Élisabeth vivent le dénuement extrême de la végétalisation, sous un arbre ruisselante d'eau, mais elles ont choisi cette pauvreté. Chez elles, la complainte se mue en silence, en action de grâce. Ce rapide survol des œuvres complètes de Rudebeuf, polémique, hagiographique ou prétendument autobiographique, permet de constater que la pauvreté est le fil directeur de sa poésie. Jeune habitant de Troyes, il est fasciné par la pauvreté des franciscains, le renoncement radical des nobles, les stigmates de saint François. La cupidité lui apparaît déjà comme une puissance destructrice qui, allégorisée, gangrène tous les états de la société. À Paris, défenseur de Guillaume de Saint-Amour et des maîtres séculiers, il s'offense du succès de ces prétendus mendiants qui, de leur palais, méprisent la piétaille soutenue par le roi et le pape. La pauvreté qui le fascinait le révulse, vu comme le masque de l'antéchrist et la cause paradoxale d'un monde bestorné où frontières, castes s'abolissent, où s'écroulent un à un les piliers de Sainte-Église. Mais son engagement aux côtés des séculiers échoue. Les mendiants, Louis IX, le pape, gagnent le combat idéologique. Les mendiants enseigneront à l'université et influenceront durablement la littérature, la théologie. Poète polémique, Rudebeuf devient alors provocateur avec cette célèbre pirouette qu'est la Grièche d'hiver qui vient casser les codes poétiques et montrer que le vrai pauvre, c'est lui. Se retrouve là son surnom. Le poète pauvre, comme le Rudebeuf, mène une vie rude et soumise aux aléas météorologiques ou politiques. Il ne peut plus chanter la reverdie ou la douce brise printanière. Devenu vilain malgré lui, il est contraint d'évoquer le froid au cul, la pluie qui le mouille, la chaleur qui le fait transpirer. À cet instant, le nom du poète est le signe le plus évident de la parodie à laquelle il se livre, pour répondre par l'ironie à un monde qui a tout corrompu, et même sa plus noble valeur, la pauvreté volontaire. Cette pauvreté, Rudebeuf va sans doute la vivre, et il ne faut pas écarter une dimension autobiographique, sans doute réelle à certaines périodes. Mais dans la seconde partie de sa vie, après sa conversion, il va choisir d'exalter cette pauvreté, de la sublimer. Sainte Marie l'Égyptienne et Sainte Élisabeth deviennent les deux allégories féminines de ce saint renoncement. Renoncement au bien de ce monde, au marbre du palais et même à la robe, signe du statut de la caste au Moyen-Âge. Elles incarnent un idéal mendiant non corrompu, celui qui avait ému le poète dans sa jeunesse, celui dont il déplorait à Paris la perte. Avec ses hagiographies, Rudebeuf retrouve ou découvre une poésie exaltée, enthousiaste, panégyrique. Il renonce à sa rudesse pour retrouver la tradition poétique de ses ancêtres, celle de Gautier de Coincy. S'il évoque alors son nom dans les explicites de ses vies, c'est pour que, comme nous l'avons vu en commençant, le Christ, celui dont Marie l'Égyptienne est l'amie, n'oublie pas Rudebeuf. Réconcilié avec la pauvreté de son humanité, la pauvreté de la poésie et de ses turbulences sociales, le poète ne s'adresse plus qu'à Dieu en lui demandant de ne pas oublier son nom. Je vous remercie.
Merci, chère Élisabeth. L'idée est extrêmement astucieuse de cette double attitude ou de ces deux attitudes successives de Rudebeuf face à la pauvreté avant et après la conversion. C'est quelque chose qui me paraît très à la fois intéressant et neuf. Sinon, vous avez été sensible à la bonne éducation de Madame Élisabeth Mathieu, parce qu'évidemment, elle se situait par rapport à moi. Elle voulait me démentir un peu, mais elle n'osait pas trop, donc elle ne le disait pas explicitement. Alors, la référence, mais enfin, ceux qui suivent le cours depuis longtemps l'ont remarqué, c'était deux choses. D'une part, le cours que j'avais fait autour de 2006, je rappelle tellement, dans le cadre, enfin, c'était le cours sur poésie et récit, ou la poésie comme récit, et où j'avais développé cette idée qu'ensuite j'ai publiée, c'est à ça que Elisa Vignature faisait allusion, Rudebeuf et la poétique de l'indigence. En partant du jeu sur les noms et en essayant de montrer que de même que les troubadours considèrent que leur langage poétique doit refléter les contradictions de l'amour, de même, Rudebeuf considère que la poésie de la pauvreté doit elle-même être une poésie pauvre, comme il y a un théâtre pauvre, et que la virtuosité, sa virtuosité réelle, se masque sous l'apparence de la facilité. Et puis, il y avait aussi une autre allusion, alors plus ancienne, qui était au cours de la fin des années 90, sur le poète et le prophète, où j'avais comparé, alors justement, cette revendication de simplicité chez les poètes particulièrement sophistiqués, et où j'avais rapproché Rudebeuf du prologue du second livre de Gautier de Coincy, où il a 30 vers d'une virtuosité invraisemblable pour dire qu'il écrit simplement et qu'il préfère le style du prophète à celui du poète. Et là, au regard de ces différents développements, Elisabeth Mathieu me corrigeait d'une certaine façon et montrait les limites de l'adhésion de Rudebeuf à la pauvreté. Alors, elle l'a fait de façon très convaincante, je bats ma coulpe. Je me défends. Alors, il y a d'abord un détail et peut-être moins un détail, mais je vous pose la question. Évidemment, le très court dit des Ribauds de Grève n'a rien d'autobiographique. Il regarde des pendus, n'est pas pendu lui-même. Mais il l'utilise comme c'est quelqu'un qui réutilise. Justement, il est quand même un peu parisien. Il réutilise des vers. Il utilise le même vers qu'il s'applique à lui-même dans les Grièches. Le jeu de mots sur les mouches blanches et les mouches noires. Les mouches blanches, la neige qui pique de froid l'hiver, les mouches noires, les mouches qui piquent dans la chaleur de l'été, avec plaisanterie analogue à celle qu'a citée Elisabeth Mathieu et qu'il utilise lui aussi, à plusieurs reprises aussi, sur l'été, l'hiver, je me mouille, ou Sainte Élisabeth de Hongrie se mouille parce qu'il pleut, et l'été, je m'essuie parce que je transpire. Je ne peux, ou elle-même le fait. Les personnes qui ne peuvent s'abriter ni du froid ni du chaud. Mais la réutilisation, le remploi des mêmes vers pour des personnages qui ne sont pas lui, ou pour un jeu qui est lui ou qui n'est pas lui, on peut gloser à l'infini pour savoir quel est le degré d'identification, ça n'a pas grande importance. Est significatif. Et l'autre, me semble-t-il. Et alors, l'autre point, vous avez dit, en utilisant Jean-Pierre Bordier, mais vos analyses étaient meilleures que celles de Jean-Pierre Bordier, de sorte que vous étiez plutôt plombé par lui. Le Rudebeuf n'est pas un vrai pauvre, donc le surnom est un masque, ça, évidemment, le surnom est un masque, ce n'est pas un vrai pauvre, parce que c'est un poète urbain et qui vit près des grands, et il méprise les vilains. Il est tout à fait vrai qu'il méprise les vilains, mais c'est nous, il ne faut pas confondre les vilains et les pauvres. Généralement, dans la littérature du temps, les vilains sont de riches vilains. Et effectivement, la misère était urbaine. À la campagne, on ne mourait pas de faim. Il y a quelques pauvres vilains, mais pas beaucoup. Il y a le Bouvier d'Aucassin et Nicolette, mais c'est un valet, c'est un domestique de paysan. Et Aucassin et Nicolette est une œuvre vraiment très, très marginale. Dans tous les fabliaux, ce sont des riches vilains. De sorte que le mépris du vilain est aussi le mépris du riche avare, et c'est quelque chose Jean-Pierre Bordier dit, oui, alors Jean-Pierre Bordier, comme tout le monde, en a au romantisme. Ça agace toujours parce que les romantiques ont parfaitement compris le Moyen Âge, les savants contemporains beaucoup moins bien, mais c'est toujours au romantique qu'on en a. Et il dit, oui, mais l'idée, Rudebeuf, le premier des poètes maudits, c'était le titre d'un article de Gustave Cohen. Ça ne tient pas. J'en oublie ce que je voulais dire à propos des. Attendez, non, mais ouais, je suis complètement gâteux. C'est que parce que on ne peut pas comparer avec les poètes de la. Ou romantiques, mais ce n'est pas des poètes romantiques, les poètes de la fin du XIXe siècle ou du tournant du XXe siècle, la poésie de la misère qui s'inspire ouvertement de Rudebeuf. Jehan Rictus ou Bruant, qui reprend le Tersecque, s'inspire de Rudebeuf. Mais ils n'ont pas tort, ils sont dans la même attitude. La fin du XIXe siècle est une époque où, quand on est à la ville, on se plaint de sa misère et on peut crever la faim, mais on méprise les cutéreux, on méprise les paysans. Ça a été l'attitude constante avant l'urbanisation massive et quand la France était essentiellement rurale. C'était encore l'attitude. Dans mon enfance, je suis né tout de suite à la fin de la guerre, les souvenirs de la guerre et le marché noir, c'était la misère interne et ces salauds de cutéreux qui s'enrichissaient. C'était ça le discours. C'est un discours continu depuis le XIIIe siècle, je ne crois pas du tout qu'on puisse en tirer argument pour dissocier Rudebeuf de la misère ou pour quelque argument que ce soit. Moi, ce que j'en dis, c'est comme ce que j'en pense, c'est histoire de causer. Mais d'ailleurs, je cause trop et je suppose que d'autres veulent causer aussi. Il est difficile. Alors, il y a visiblement ce qu'on peut appeler une conversion de Rudebeuf à un moment donné. Il y a aussi que comme c'est visiblement un pamphlétaire stipendié et qu'on le paye pour attaquer les ordres mendiants dans la querelle universitaire et qu'on le paye ensuite ou en même temps, qui sait, pour défendre la politique royale et au service des royaumes, de ce qui reste des royaumes latins d'outre-mer, du royaume latin de Jérusalem, qui est plus à Jérusalem, comme on le paye, il est assez difficile de savoir ce qu'au fond il en pense, n'est-ce pas ? Mais Elisabeth Mathieu a montré qu'on pouvait quand même le faire. Et on peut le faire justement à partir des échos qui traversent les différents poèmes et les différentes situations desquelles il se peint. Les récurrences, les constantes et les changements de tonalité ou de coloration de ces constantes donnent des indices qui, eux, sont assez sûrs. Et Elisabeth l'a très bien montré. Bon, bah, écoutez.
Juste pour revenir au détail des vilains, oui. Je pense que ce qu'il reproche aux vilains, ce n'est peut-être pas une pauvreté au sens financier du terme, mais une pauvreté culturelle. Quand on voit ce mépris vis-à-vis des frères Sachet qui doivent retourner à leur charrue, c'est le mépris vis-à-vis des illettrés.
Voilà, c'est ça.
Cette pauvreté-là.
Oui. Oui, oui, ils sont. Ces salauds-là, non seulement ils sont riches, mais en plus ils sont bornés. Mais c'est là. Enfin. Bon, bah écoutez, je vous remercie et à la semaine prochaine. Merci. Si vous voulez bien.